commandement qu'il a donné, son Fils. Cette foi en Jésus-Christ, si cruciale, car elle engage non seulement notre vie, mais aussi l'éternité, est-elle en fait incompatible avec la raison, l'intellect, dans une société qui a tendance à rejeter la croyance? Un certain Yoon Kim a déclaré sur les réseaux sociaux que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et il a déclaré que sa croyance était fondée non seulement sur la foi, mais aussi sur la raison. Fait notable, Yoon Kim fait partie de l'élite scientifique mondiale. Il est non seulement connu pour ses travaux révolutionnaires en neurosciences et en intelligence artificielle, mais il est aussi officiellement reconnu comme ayant le QI le plus élevé du monde, à 276. Mais la foi est plus une affaire de cœur, n'est-ce pas? Le cœur étant, bibliquement parlant, le siège des émotions, de la volonté, mais aussi de la pensée. C.S. Lewis, que vous connaissez tous, célèbre auteur des Chroniques de Narnia, a déclaré quant à lui « Le christianisme, s'il est faux, n'a aucune importance. Et s'il est vrai, il est d'une importance infinie. La seule chose qui ne peut pas être, c'est modérément important. » Elisa et Elia sont là et nous sommes là aujourd'hui avec elles, car elles se sont positionnées. Leur cœur aime le Sauveur et le Seigneur Jésus-Christ, et leur cœur, leur être intérieur, veut suivre celui qui est le chemin qui mène au Père, la vie et la vérité. Et le baptême est une étape que le Seigneur a ordonnée dans ce cheminement avec lui. Le mot baptême vient du terme grec « baptizo », qui signifie en français « immerger ». Dans le Nouveau Testament, le baptême est donc pratiqué d'une seule manière, c'est-à-dire par immersion complète, d'où la présence de cette piscine. Mais quel est le sens de ce baptême? Là, je crois qu'il est bon pour ceux qui sont passés par les eaux du baptême de se le rappeler. Ceci est comparable à un couple marié depuis de longues années qui assiste à un autre mariage et qui réentend le sens de l'alliance et de l'engagement et qui se le réapproprie. Le baptême reflète et exprime un passage. Précisons tout d'abord que Jésus a dû vivre lui-même un baptême. Il est un baptême dont je dois être baptisé, nous dit-il dans la parole. Baptême qu'il a mené premièrement de la vie à la mort sur la croix, par amour pour vous et moi, en prenant sur lui nos fautes et notre condamnation. Et baptême qu'il a ramené de la mort à la vie à travers la résurrection opérée par le Père. Et à travers cette œuvre merveilleuse à la croix, Jésus nous fraye un chemin, un passage qui est glorieux et qui est représenté d'une certaine manière à travers le baptême d'eau. Donc permettez-moi de présenter ce matin quelques aspects liés au baptême sans prétendre à l'exhaustivité. Je vais lire un passage de la parole qui se trouve dans l'Épître aux Romains au chapitre 6. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, ici présent, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Le mot immersion rime avec les mots justification et purification. Que dit la parole ? Dans l'Épître aux Colossiens, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Écoutez bien, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Là, on a l'image, bien sûr, des eaux du baptême qui lavent, qui purifient. Donc, le baptême d'eau exprime, reflète, mais ne réalise pas, je tiens à souligner. Le baptême d'eau reflète la purification du cœur du chrétien qui a été lavé, purifié de tout péché. Acte 15, 9 nous dit qu'il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. 1 Corinthiens 6, 11, et c'est là que vous étiez quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés. C'est seulement et uniquement le sang de Jésus versé à la croix qui nous purifie, qui lave, pardonne nos péchés, et non pas l'eau du baptême. À travers notre foi en Jésus-Christ, on a été acquitté, on a été déclaré juste par sa grâce, et le baptême, qu'Elia et Elisa vont prendre dans quelques instants, met en lumière cette justice acquise par la foi en Jésus-Christ. Immersion rime aussi avec le mot libération. Libération de la condamnation du péché, comme on vient de le voir, mais aussi libération de la puissance du péché dans nos vies. Vous savez, dans la Bible, le verbe péché se dit en hébreu rata. Et rata signifie bien sûr péché, mais aussi manquer la voie, manquer le but. Et le verbe amartano en grec signifie péché, mais lui également rater la cible, manquer le but. C'est ça la définition du péché. Or, le Seigneur Jésus veut que nous ayons une vie en abondance, et cette vie abondante se trouve en le suivant lui. Elle se trouve au cœur de sa volonté, mais elle se perd en suivant le péché et en s'éloignant de lui. Et le baptême d'eau exprime symboliquement ce qui s'est passé à l'intérieur du croyant. Cette suprématie de la chair, de cette mauvaise tendance, de ce mauvais penchant de la nature humaine, que l'on appelle le vieil homme, et qui nous tire vers le bas, qui nous pousse à pécher, et qui nous pousse à rater la cible, à manquer le but de notre vie. Et d'ailleurs, c'est ce célèbre poète français Stéphane Mallarmé qui l'a quelque part reconnu en disant dans l'un de ses poèmes « La chair est triste ». C'est cette suprématie de la chair qui est engloutie dans la victoire acquise par Jésus-Christ à la croix, afin que le chrétien puisse marcher en nouveauté de vie, dans une liberté glorieuse. Donc le croyant peut se dépouiller véritablement de ce vieil homme qui se corrompt. Là, on a l'image de la mort, bien sûr. Et on a bien sûr le mot immersion qui rime avec crucifixion. Il est dit dans le passage que j'ai lu précédemment que le vieil homme a été crucifié. C'est une image forte. Et d'un autre côté, le croyant peut véritablement revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et ça, c'est l'image, bien sûr, de la résurrection. Revêtir l'homme nouveau. Cela signifie, bien sûr, laisser vivre le Christ en nous, comme Isabelle l'a souligné encore ce matin. L'immersion rime avec transformation. Laisser Christ nous transformer de l'intérieur. C'est laisser vivre son esprit en nous. Et ce qui nous permettra notamment d'étouffer au quotidien les désirs de la chair qui peuvent ressurgir de temps à autre. Parce que la chair, vous savez, elle a été détrônée, mais elle essaye encore de se manifester. C'est comme Martin Luther qui l'a dit un jour, « Mon vieil homme est mort, mais bougre qu'il sait bien nager. » Donc à nous de lui écraser les pattes, quand le vieil homme, l'homme animal, la chair veut ressortir de l'eau, on peut le faire par l'Esprit de Dieu en nous. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, nous disent les Saintes Écritures. Qui nous disent également, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et que nous dit Romains 13, 14 ? Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. Donc le Seigneur nous donne l'autorité sur le vieil homme et ses mauvais désirs par l'Esprit, et ça fait partie intégrante de la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc le baptême, il illustre à la fois les choses glorieuses que Dieu a faites pour nous, mais il illustre aussi ce que nous, et Elia et Elisa, ce que nous nous engageons à faire pour Dieu, en guise de réponse à son amour infini. Le mot immersion rime en effet avec le mot décision. Décision de suivre Jésus-Christ, ce qui implique un changement de direction, ce qu'on appelle aussi la repentance. Et ça implique un recentrage, ou plutôt un décentrage. Jésus devient centre de notre vie, et non plus notre ego. Immersion rime aussi avec confession, qui vient du grec homologeo, qui veut dire consentir, être d'accord. Le baptême est donc une décision mûre et réfléchie, d'où la dimension adulte du baptême biblique, car on doit être apte à réaliser à quoi on s'engage, ou plutôt pour qui on s'engage, pour qui on engage notre vie tout entière. Donc il s'agit d'un positionnement, d'une confession publique de notre foi, de notre amour, de notre appartenance, de notre soumission, de notre engagement vis-à-vis du Seigneur Jésus, et cela devant les hommes et le monde spirituel. Immersion, ça rime aussi avec consécration, sanctification. C'est mise à part pour le Seigneur, un cheminement de gloire en gloire à l'aide de son esprit. Immersion, ça rime aussi avec renonciation. Mais une renonciation qui est joyeuse. Parce que c'est une renonciation joyeuse à une ancienne vie, dominée par le vieil homme, qui nous tire vers le bas, mais que l'on accepte de noyer quelque part, que l'on accepte de détrôner de notre vie. Et ça implique aussi une obéissance joyeuse à notre Dieu d'amour qui déclare dans Ésaïe un passage que j'aime énormément, Ésaïe 48, 18, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme le fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Mon immersion rime aussi avec le mot « aspiration », une aspiration à marcher en nouveauté de vie. Et le baptême, si on pouvait le résumer en quelques mots, c'est en effet un acte qui manifeste dans le visible une réalité spirituelle déjà présente, c'est-à-dire l'ensevelissement, la fin de l'esclavage, de la domination de la chair, donc dans un premier temps un phénomène de mort, et ensuite la résurrection, la nouvelle naissance, l'émergence d'une nouvelle créature que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Le mot immersion rime aussi avec le mot union, communion avec le Seigneur. La parole nous dit que nous sommes devenus une même plante avec lui, comme je l'ai lu avant, et que l'ancien nous dit que nous sommes enracinés en lui. Vous voyez l'image de la plante, enracinés en Jésus-Christ. L'immersion rime aussi avec le mot identification. Identification avec le Seigneur et une aspiration à vouloir lui ressembler. La parole nous dit qu'il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. La parole nous dit aussi, devenez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et là, juste une grande parenthèse, devenez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Vous voyez quel est le fondement de notre vie ? Cette sécurité affective dans l'amour de notre Père Céleste. Devenez ses imitateurs comme des enfants bien-aimés. C'est ce qu'on est, les enfants bien-aimés, et on est appelés à l'imiter. Et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et là, je me souviens encore du tableau de Carlo avec ses belles fleurs qu'il a représentées. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, dit la parole, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Le mot immersion rime avec mission, vocation, passion. Vivre comme Jésus-Christ, vivre en Jésus-Christ pour Dieu, notre Père. Et enfin, le mot immersion rime avec jubilation. Jubilation, c'est une joie intense. En commençant bien sûr par nous baptiser, nos futurs baptisés. Et à l'image de cet eunuque éthiopien aussi qui s'était fait baptiser par Philippe, et il est dit dans la parole qu'il a poursuivi son chemin joyeux. Et une joie peut-être à l'image aussi de la famille qui entoure nos futurs baptisés, la famille naturelle, la famille spirituelle aussi, composée de frères et de sœurs en Christ. Et aussi, je peux bien l'imaginer, une joie dans le ciel. Parce que Luc 15 nous dit qu'il y a de la joie devant les anges pour toute personne qui fait demi-tour et qui se tourne vers Dieu. Ce que Elia et Elisa veulent faire et ce qu'elles veulent donc démontrer publiquement.